plus près de toi.
Plus près de toi.
Près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gala, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour à tous. Bonjour Thomas, bonjour Thierry,
salut.
Bonjour Armel. Alors, nous avons quelqu'un au téléphone, je crois. Allô?
Oui.
Qui est là?
Il est 7h du matin.
Oui, oui, c'est exact.
Il est 7h du matin, on se réveille, boulevard Saint-Antoine, près du kiosque à journaux. Et puis, la ville est calme. Et je cherche Edouard. Je ne sais pas où il est. Il y a un Vélib ici. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas vu Edouard?
Non. Non. C'est quoi?
Bah, je sais pas, je cherche Edouard, je le trouve pas. Merci, au revoir. Le métro est vide, et puis on passe devant la Liberté, le bar. Un kiosque à journaux, on va vous lire la une, les titres. Eh bien, le Figaro, l'onde de choc, Macron frappe la droite et la gauche. Libération, ne rien lâcher. L'équipe, t'en va pas. Aujourd'hui en France, non, t'es pas encore, tout n'est pas encore joué. Bonjour, monsieur. Beauty Native, Society, marche ou crève, 1,90€. Promo des kiosques. Bonjour madame. Je cherche Edouard. Je cherche Edouard. Vous savez pas où il est. Je sais pas où il est.
Vous êtes sûr de le chercher dans le bon quartier quand même?
On va le retrouver tout à l'heure, je sais pas. Ici les Vélib' sont tous bien rangés. Eh bien c'est une bonne journée qui commence, les gars. Je me rappelle quand je le trouve.
Les infos alors, Thierry Paré.
La présence de l'extrême droite fait courir un risque à notre pays. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Voilà, on démarre avec une citation, une déclaration de François Hollande qui rejoint ainsi la longue liste des personnalités politiques qui, de la droite à la gauche, appellent à voter pour le candidat du Mouvement En Marche au second tour de la présidentielle. Rappelons qu'Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour avec près de 24% des voix contre 21,4% pour Marine Le Pen. Arrivée donc seconde, les deux candidats seront face à face le 3 mai pour le traditionnel débat télévisé de l'entre-deux-tours. Le scrutin, vous le savez, a également été marqué par plusieurs choses. D'abord, la défaite de François Fillon, éliminé du second tour avec 19,9% des voix, par le très faible score de Benoît Hamon, puisque le candidat socialiste n'a rassemblé que 6,3% des suffrages, et puis par le très bon résultat, mais insuffisant, de Jean-Luc Mélenchon, qui, fort de ses 19,5%, peut se prévaloir désormais d'être un acteur incontournable à gauche, avec un enracinement nouveau dans les quartiers populaires et en banlieue. Jean-Luc Mélenchon, on le rappelle, qui s'en remet pour le second tour au choix des militants de son mouvement, qui sont invités à s'exprimer sur Internet, et le résultat de ce vote sera connu vendredi. Au lendemain de sa défaite à la présidentielle, François Fillon s'est exprimé devant les dirigeants du Parti des Républicains. Réunis en bureau politique, je n'ai plus la légitimité pour livrer le combat des législatives, a-t-il indiqué. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres. Je vais devoir penser ma vie autrement, penser aussi les plaies de ma famille, a-t-il ajouté. Les élections législatives, elles se tiendront les 11 et 18 juin. Des syndicats, étudiants et lycéens, mais aussi le mouvement SOS Racisme et Ni Pute Ni Soumise, ont organisé des rassemblements hier dans plusieurs villes de France, et notamment à Paris, du côté de la République, où 200 personnes se sont rassemblées. On était loin de la mobilisation lorsque le FN s'était qualifié au second tour face à Jacques Chirac. Invitée du 20h de France 2 hier soir, Marine Le Pen a déclaré qu'elle se mettait en congé de la présidence du Front National. Elle a expliqué cette décision au nom de sa volonté, je cite, de rassembler tous les Français. Aujourd'hui, Marine Le Pen est à Rungis ce matin, et puis Emmanuel Macron prend des risques puisqu'il va se rendre à Whirlpool, à l'usine de Whirlpool à Amiens, usine menacée de délocalisation du côté de la Pologne, et donc les salariés attendent de pied ferme Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, un hommage national va être rendu aujourd'hui à l'encontre de Xavier Jugelet, 37 ans, le policier abattu jeudi dernier sur les Champs-Élysées à Paris, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. L'enquête, elle se poursuit pour retracer l'origine des armes utilisées par le tueur. Les prisons françaises qui battent encore un triste record. Au 1er avril, il y avait 70 230 personnes détenues dans les établissements pénitentiaires pour une capacité d'accueil de 58 664 places, très précisément. De quoi renforcer déverser la colère des détenus et du personnel pénitentiaire qui a entamé ces dernières semaines des mouvements de grève dans plusieurs établissements. Puisqu'on parle de grève et de prison, plus d'un millier de détenus palestiniens continuent leur grève de la faim dans les prisons israéliennes. Ils réclament des conditions de détention plus humaines. Et au huitième jour de cette grève, les premiers signes de fatigue ont fait leur apparition. Les conditions de santé de Marwan Barghouti, par exemple, le très populaire dirigeant du Fatah en prison depuis 14 ans, et de certains autres détenus, se seraient dangereusement dégradées ces dernières heures. Et puis les États-Unis ont annoncé des sanctions financières aujourd'hui contre 271 scientifiques d'un centre syrien de développement d'armes non conventionnelles en réponse à l'attaque au gaz toxique du début avril en Syrie. Un dernier mot pour vous parler de football. De Ligue 2, Lens a perdu sur le terrain du Havre hier soir. C'était un match en retard de la 34e journée. Et Lens qui perd l'occasion de redevenir 3e au classement. Lens est 4e.
Merci Thierry. Nous étions tout à l'heure avec Jack dans la rue à la recherche d'Edouard. Est-ce qu'il y a du neuf, Jack ?
Ça y est, je l'ai retrouvé.
Non.
Je l'ai retrouvé, je vous jure.
Mais c'est le bon Edouard ?
On est sur un banc et il se gratte la barbe là.
Ah bah c'est
bonjour.
Lui.
Non, bonjour. Pardon d'être en extérieur aujourd'hui. Je me suis désectorisé. J'ai pensé qu'il était important de faire ce pas de côté, qui nous permet de nous asseoir sur le rebord du monde pour voir ce que les hommes en ont fait. Je vais donc être avec Jack, tâter le pouls du terrain, comme on dit chez nous dans le monde politique dont je fais partie. Face à nous, il y a la brasserie au métro. Souvent devant le métro, il y a la brasserie au métro. Ce qui est plus rare, c'est qu'il y a organisation funéraire juste à côté. Donc des services funéraires à côté du bar au métro, c'est un peu l'état de ce matin. Une petite pluie assez agréable, quasi bretonne, un peu douce. C'est plus une caresse que de la pluie agressive. Donc il suffit d'ouvrir la bouche et d'être pu. À tout de suite, chers amis. Hein, bravo en tout cas. Bravo. Je suis votre émission, elle est très appréciée.
À tout à l'heure, Edouard.
À tout à l'heure.
7h-9h plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
7h, 9h. Plus près de toi.
On va.
Mais là, Omar, vous vous êtes... Non, Hammer. C'est Hammer, mais je connaissais...
C'est Hammer, ouais.
Et là, c'est la fin, en fait, c'est la fin de votre service à l'hôtel.
Oui, c'est la fin de la journée où on va se reposer un petit peu. On va voir le petit avant qu'il aille à l'école.
Donc là, vous avez à votre heure où vous croisez les gens qui ont une vie dans l'ordre normal, c'est ça. Vous finissez à 6 heures, entre 6 et 9, vous avez 3 heures.
Ouais, je finis à 7 heures et je recommence le soir à 21 heures, parfois à 20 heures, parce que j'accumule aussi un travail dans un autre hôtel aussi.
Ah oui, parce qu'en fait, là, ça s'appelle quoi ? Réceptionniste de nuit ?
Réceptionniste ou bien night audit.
Pardon ?
Night audit.
Night audit, c'est pour ça plus.
Voilà. Non, mais c'est ça. Réceptionniste de nuit, night audit, ça veut dire il travaille de nuit, l'audition de nuit.
J'aime bien.
Il fait des réserves, il fait des réservations, il fait tout son travail, mais de nuit.
J'aime bien l'idée audit de nuit, ça veut dire que la nuit, il y a une oreille dans l'hôtel. L'hôtel normal, l'hôtel a des oreilles, il peut aussi vous
oreilles, et parce qu'il y a des réservations qui passent de partout, parce que les horaires en France ne sont pas les mêmes aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Amérique latine.
Ah, donc les gens réservent toute la nuit, vous êtes là pendant
quoi ? Voilà, on réserve, on prépare les commandes du matin. Où on fait attention aux besoins de clients.
Ça fait un petit peu rêver l'appel de l'Australie au milieu de la nuit, comme ça. Non, vous n'avez pas.
Souvent, ouais, ça.
Il y a une voix assez douce. Oui, oui. Il y a une femme qui est sur une plage à Melbourne, peut-être même en monokini, qui vous parle.
Voilà, oui, ça arrive qu'ils nous parlent même des boîtes de nuit, et qu'on entende la musique latino derrière, c'est la fête.
Et oui,
ça change d'avis chaque minute. Et le mec, il réserve pour 3 nuits, la dame, elle appelle 3 minutes plus tard, elle veut. De nuit simplement, puis voilà.
Pas, ils sont pas. Alors c'est oui, 2, 3 donc.
Voilà, c'est la nuit.
On est dans la rue à Hammer. Je vois un peu comment fait Jack souvent dans la rue, c'est qu'il arrive, vous savez, il crache du feu, ensuite il fait la roue. Alors forcément les gens s'attroupent et là c'est plus facile de partir. Hammer, c'est un hôtel combien d'étoiles vous travaillez ?
3 étoiles.
Elles sont méritées ces 3 étoiles ?
Oui, elles sont très méritées. Franchement, ça va.
Ça veut dire quoi ? Eau chaude, eau froide. Ça veut dire des draps, ça veut dire une fenêtre par chambre.
Il y a tout ce qu'il faut pour les clients. Ils sont hyper contents. On a toujours des beaux commentaires. On n'a jamais eu un problème.
Beaux commentaires sur TripAdvisor, c'est là que ça se passe dans l'hôtellerie maintenant.
Oui, voilà.
Une note. Et pas donc, Jacques, souvent sur TripAdvisor, c'est quoi votre note de l'hôtel là, mais de vous.
Ah ben, je ne sais pas, je n'ai pas regardé encore. Mais il paraît qu'il y a des faux sondages.
Que vous savez que dans un avenir prochain, on sera tous notés sur TripAdvisor.
Bonsoir, vous aurez une note. Par exemple, Jacques, souvent, dans la rue, il est sympa. Dans la vie amoureuse, il a telle note. On est dans la rue. Bonjour, François. Bonjour à tous.
Oui, bonjour, Edouard. J'arrive là à l'instant un peu en courant d'un petit déjeuner de travail avec l'équipe de Jacques Cheminade. On essaie de voir comment on peut essayer de redresser la barre.
Oui.
Et ce qui va vous faire rire, c'est que un des équipiers me dit, mais sais-tu que l'équipe de François Asselineau fait la même chose en ce moment à l'hôtel Hammer? Donc je suis un petit peu étonné de vous entendre délirer sur un travailleur de nuit et sur le night audit, parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt en train d'essayer vous aussi de redresser la barre.
François, j'espère que vous êtes sérieux, que vous n'êtes pas dans ce petit humour parisien, vous savez, dont on se moquait avec Jean Lassalle hier soir à dîner, et de se moquer des gens qui ont moins de 5% des voix. J'en parlerai tout à l'heure aussi avec mon petit Nicolas Dupont-Aignan, il était furieux, il est en dessous de 5, les frais ne seront pas remboursés de sa campagne. Ouais. Vous pouvez voir avec les contacts que vous avez si on peut faire quelque chose.
Bah, y a combien ? Il faut trouver combien à peu près ?
Il faut trouver 0,2, il est à 4,8. Si vous trouvez 0,2% de voix, ou sinon je crois qu'une campagne se tourne à 1 million, non ?
Oh, j'ai ça parce que j'ai des amis à Propriano et à Calvi, donc 0,2 ça doit se trouver ça, oui.
Mais merci beaucoup, François Rollin, il fait voter les morts. À tout de suite, on est... Merci,
monsieur. Reposer.
Bonne journée, bon repos. Salut à tous.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird. 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Près de toi, dans plus près de toi, on retourne dans la rue puisque Edouard Baird ce matin a décidé de rejoindre Jack souvent dans la rue de l'autre côté, car vous êtes de l'autre côté.
J'avais pas mis le casque.
Mais c'est pas grave, c'était une sorte de dire qui fait quoi à quel moment.
Alors là, on est à l'antenne par exemple.
C'est exact.
Donc c'est une expérience étrange parce que là, on est assis par exemple.
C'est drôlement étrange, oui.
Non, je veux dire, en soi, être assis, c'est pas grand-chose, mais être assis en direct à la radio, c'est déjà une autre expérience. Vous voyez ce que je veux dire, François ? Je sais que vous êtes assez fin, Thomas et François, pour saisir l'extrême différence. Je répète donc, être assis, ça c'est accessible, on peut tous le faire. Je pense que les auditeurs chez eux, il y a peut-être certaines personnes qui sont couchées, d'autres debout, mais certains sont assis, et j'insiste sur le mot assis. Mais être assis en direct et à la radio, là, tout à coup...
Mais alors, quelques mots de votre environnement humain, principalement, à l'heure où vous me parlez.
Je comprends mieux, là, Jacques Souvent, si vous voulez, sa vie. Jacques Souvent, entre ses passages à l'antenne, c'est vrai qu'il ramasse 2-3 mégots, il essaie de reconstituer des cigarettes à partir de là. Très souvent, elle a un arrêt de bus, il voit que quand une dame ne fait pas trop attention, il essaie de lui tirer un peu son sac. Vous voyez, c'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, qui lui permettent d'arrondir ses fins de mois. Là, on est en terrasse d'un café... au Carrefour Federm Chaligny, c'est un quartier où j'ai eu un restaurant il y a 10 ans.
Ah oui, les Parisiennes.
Qui a fermé pour cause de drames financiers.
Il faut dire qu'on y mangeait vraiment extrêmement mal et dans une ambiance déplorable.
Oui, mais je vous rappelle que les prix étaient très élevés, François.
Oui.
Alors ceci compense cela. Donc on est là, on est devant le métro Federm. Pour le moment, les gens ne se bousculent pas au portillon, hein, Jack.
Non, c'est assez calme. Même cet homme avec le sac plastique, là, a un pas... nonchalant. Et je sais pas.
Comment relancer le métro Federm Chaligny ? C'est évidemment un des sujets de ce matin. Vous savez, nous, on essaie de voir pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi les choses ne sont pas fréquentées. Alors, en tant que promeneur, on est ravis de croiser du vide, du silence, de la solitude. Mais j'aimerais bien que ça reparte, l'activité commerciale. Alors, il y a un magasin d'orthopédie en face. On attend son ouverture avec impatience.
On va voir Martine Aubry en ligne, puisque le général Federm était de Lille.
et le colonel Chaligny, vous en pensez la colonne Federm ? C'est la fameuse colonne Federm Chaligny qui a traversé l'Afrique et qui l'a mise à feu et à sang, c'est pas ça du tout.
Ouais, mais Chaligny, je le situe pas bien, Chaligny. Je pense d'ailleurs que c'est un peu long, ce Federm Chaligny. Federm, tout seul, ça va très bien, quoi. Ça, on peut proposer ?
Oui, mais si Chaligny a fait des trucs bien, autant l'évoquer. On peut faire un Federm chat.
Et
le mec qui bosse, il va chercher le Ligny tout seul.
Moi, je dirais une nouvelle station qu'on appellerait Chaligny et puis mettre le paquet sur Federm. Et Anne me disait qu'elle va dans ce sens aussi, Hidalgo.
Bon, si tout le monde est d'accord, moi, comme la boucle, il y a un moment, je ne veux pas non plus. Si tout ça a lieu derrière, si c'est la petite cuisine électorale que vous faites. Non, mais si vous faites vos petites organisations derrière le dos des Français, entre vous comme ça, c'est de la petite cuisine pour moi, ça.
Non, parce que rendez-vous compte que Federm, évidemment, je vous ai dit qu'il est de Lille, ça c'est une qualité, mais c'est aussi ce nom qui nous fait penser à la campagne, tout simplement. Hein, les villes à la campagne, les voilà.
Oui, les villes à la campagne et la campagne à la ville. Mais vous savez, François, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de noms de militaires dans les rues des villes, alors qu'un type qui parle à la radio mériterait une blague. Je ne dis pas ça pour moi. Je pense à Jack souvent.
Oui, oui, oui. Hein, ouais, j'essaye de le faire. Je veux prendre le métro à mairie de Montreuil. Où est-ce que je vais descendre, moi? Oh, je vais descendre à Jack souvent. Ça me fait une petite trotte à pied, mais...
Mais il y a correspondance, François Rollin. Oui.
7h, 9h, plus près de toi.
On marche. Vous avez retiré combien?
20 euros.
20 euros?
Oui, pourquoi?
Bah, comme ça m'intéressait. Vous êtes sorti du c'est quoi, c'est quelle banque?
Je crois que c'est le Crédit Lyonnais.
Vous avez retiré 20 euros?
Ouais.
Vous allez faire quoi là avec ces 20 euros là? 20 balles?
Second loto, j'y crois comme tout le monde.
À cette heure-là?
Ouais.
On marche un peu? Ouais. Vous allez dans quel coin?
Je rentre. Ouais, non. Je sors du boulot, j'ai travaillé, j'ai fait manuel d'hôpital, je fais mon petit loto, je rentre me coucher, tranquille.
Petit loto en sortant du boulot?
Ouais, voilà. Allez, le café avec le copain depuis 10 ans.
Ah ouais?
Voilà, tranquille.
Et là, vous me dites, faut que j'y aille?
Ouais, parce que faut vraiment que j'y aille, parce qu'après, j'ai pas le métrin, c'est long à avoir.
D'accord. Bah, je vous laisse, vous me rendez le cash? Salut!
Salut, au revoir, salut mon grand.
Ouais. Bah ça brine toujours ici, ça farine, comme ils disent aux Antilles. Et bah voilà, cet homme-là vient de sortir du métro. Bah, il sortait du métro, il a pris 20 balles. C'était assez sympa à voir, moi je suis resté en terrasse. Et Jack a une façon vraiment d'aborder les gens qui est extrêmement sympathique, quoi. Je comprends qu'on lui réponde, c'est assez étonnant. Là, sous la pluie, il y avait deux hommes qui se parlaient, qui ne se connaissaient pas. C'était assez joyeux.
C'est
l'heure. Ouais.
Bah non. On est parti.
On y retourne. Madame, bonjour. Vous traversez avec moi?
Non.
J'ai un petit peu peur, moi. Monsieur?
Comment? J'ai pas le temps.
On n'a jamais le temps, le matin.
Ah non, je suis prêt.
Attention, on va se faire écraser. C'est rouge piéton. Madame? Votre chien, là? Comment s'appelle-t-il?
Elona.
Elona. Et vous l'emmenez... Oui, ça c'était un petit peu plus compliqué.
T'as envoyé le chien? Mais j'ai pas vu la taille du chien.
Bah, le chien était côté de la façade du...
Bon, il était velu.
Ah, il est velu, mais ça souvent, il y en a rarement qui sont imberbes dans le domaine canin.
Eh ben, je pensais pas qu'on pouvait faire de la radio expérimentale à 7h30 du matin sur une antenne nationale, mais finalement, on vient de le prouver grâce à Jack et à Edouard qui se tombaladent dans la rue. C'est bien plus près de toi. Hein. Vous écoutez la matinale de Radio Nova. Il est quasiment 7h30, on va prendre un petit peu d'avance et c'est l'heure du journal de Thierry Paré.
Le débat télévisé de l'entre-deux-tours, il aura lieu, hein, celui-là, parce que je pensais à Jacques Chirac qui avait refusé de débattre contre Le Pen. Là, il y aura bien un débat, il aura lieu le 3 mai, donc mercredi, pas demain, mais dans une semaine. En attendant ce débat de l'entre-deux-tours, les deux candidats repartent en campagne. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui auprès des salariés de Whirlpool à Amiens, usine dont la production doit être délocalisée en Pologne. Amiens, c'est la ville natale hein, d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Elle était au marché d'intérêt général de Rungis ce matin, donc en région parisienne. Invitée du 20h de France 2 hier soir, Marine Le Pen a déclaré qu'elle se mettait en congé de la présidence du Front National. Elle a expliqué cette décision au nom de sa volonté, je cite, de rassembler tous les Français. Elle a aussi émis son souhait d'un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan. La présence de l'extrême droite fait courir un risque à notre pays. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Déclaration de François Hollande, qui rejoint ainsi la longue liste des personnalités politiques qui, de la droite à la gauche, appellent à voter d'ores et déjà pour le candidat du mouvement En Marche au second tour. C'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon pour l'instant, qui s'en remet pour le second tour au choix des militants de son mouvement, qui sont invités à s'exprimer sur Internet. Le résultat de cette consultation, il sera connu vendredi. Des syndicats, étudiants et lycéens, mais aussi le mouvement SOS Racisme ou encore Ni Pute Ni Soumise, ont organisé des rassemblements hier dans plusieurs villes françaises et notamment à Paris, place de la République, où 200 personnes environ se sont rassemblées. On était quand même très loin des rassemblements lorsque Le Pen s'était qualifié, Jean-Marie cette fois s'était qualifié au second tour face à Jacques Chirac. Au lendemain de sa défaite à la présidentielle, François Fillon s'est exprimé devant les dirigeants du Parti des Républicains hier, réunis en bureau politique. « Je n'ai plus la légitimité pour livrer le combat des législatives », a-t-il indiqué. « Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres. Je vais devoir penser ma vie autrement, penser aussi les plaies de ma famille », a-t-il ajouté. Les élections législatives, elles se tiendront les 11 et 18 juin. Dans le reste de l'actualité, un hommage national va être rendu aujourd'hui à Xavier Jugelet, 37 ans. C'est ce policier abattu jeudi dernier sur les Champs-Élysées à Paris. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. L'enquête se poursuit pour retracer l'origine des armes utilisées par le tueur. Les prisons françaises, elles battent encore un triste record. Au 1er avril, il y avait 70 230 personnes détenues dans les établissements pénitentiaires pour une capacité d'accueil de 58 664 places. Et puis Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir. Mankor, le talonne. Mankor, c'est une indienne. Elle vient de remporter le titre du 100 mètres dans la catégorie des centenaires. À 101 ans, elle vient de parcourir la distance en 1 minute et 14 secondes.
Pourquoi vous faites des examens comme ça ?
Sûrement parce qu'on aime bien se faire du mal.
C'est quoi alors ? C'est quoi ? Vous m'avez dit anglais ?
Anglais, c'est ça.
Grammaire allemande.
Grammaire allemande.
Ouais, parce que l'allemand, c'est bien.
Pourquoi vous subissez tout ça ?
C'est une bonne question. Je crois que la société nous en impose pas mal. Non, je rigole. Non, mais c'est cool d'apprendre.
À quoi ?
C'est sympa d'apprendre.
Ah oui, c'est sympa. Et là, c'est loin le...
Non, c'est à une demi-heure. C'est au Louvre.
Au Louvre ?
Ouais.
Bah, qu'est-ce qui se passe ?
Ils vont faire un examen d'anglais et d'allemand au Louvre.
Mais au Louvre le musée ?
Au Louvre l'école.
Tu manges quoi, là ?
Là, je mange du pain parce que j'ai pas eu le temps.
Mais je trouve ça pas poli de manger la bouche pleine. De parler la bouche pleine, tu te rends compte, il y a des millions d'auditeurs qui sont là, qui ont le ventre creux, c'est de la provoque.
Je suis désolée pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Eh ben, c'est du pain beurre. Regarde, je te montre. Voilà.
En effet, là, Jacques pourra vous le dire. Quel est son prénom ? Agathe vient de dérouler, d'ouvrir une baguette qui a été tranchée dans son milieu, ce qui permet de faire deux parts égales. Et l'une des surfaces, François, je répète bien, l'une des surfaces a été beurrée.
Et quel est le prénom du beurre ?
Le prénom du beurre, je ne pense pas. Non, c'est un beurre que tu as acheté comment ? C'est un beurre quoi ?
Oula, alors là, on va avoir un problème parce qu'en fait, c'est du beurre doux. J'ai dû rajouter du sel parce que je suis bretonne et je peux pas manger du beurre doux. Du coup, j'ai dû rajouter du sel.
Voilà, vous voyez, François, vous voyez sur une question qui avait l'air d'une provocation socialo-communiste, tout à coup, vous êtes arrivé à une réponse qui est intéressante.
Ben oui, parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur un beurre de terroir, sur un beurre artisanal, sur un beurre authentique. On n'est pas sur un beurre de grande distribution.
Le vrai goût des vraies choses, j'ai lu votre livre, hein, ne ment pas. Mais c'est vrai qu'Agathe, vous avez entendu, donc tu rajoutes, tu prends une fourchette et tu mets du sel dans ton beurre.
Ah non, à la main.
À la main, donc c'est baratté à la main par Agathe chez elle. Donc là, je pense que tu fais ça une fois par semaine
Bah oui.
Alors, il y a sa copine.
J'ai peur de vous décevoir parce qu'on habite en coloc et c'est du beurre de grande distribution.
Alors, c'est du François, pardon.
Ah.
C'est le foyer, on va pas non plus foutre tout notre pognon d'étudiants dans le beurre. C'est un foyer, alors ?
Oui, c'est un foyer, c'est eux qui nous fournissent le beurre. C'est la seule chose qu'ils nous fournissent.
Il est où, ce foyer d'étudiante ?
Il est 4 rue Tisson, c'est un foyer international.
Et vous êtes quelle internationalité ?
Vous, bretonne, hein, très clairement.
Ah, c'est vraiment international, puisqu'il y a des bretonnes. Vous arrivez à passer discrètement entre 3 chinoises, 2 marocaines et une américaine ?
On les évite parce qu'on n'aime pas trop se mélanger.
Oui, en effet... Agathe est très très radicale, hein, François.
Et alors, mademoiselle, j'ai une question pour ces demoiselles. Supposez que vous ayez un beurre doux à saler et qu'on vous propose de le saler avec soit de la fleur de sel de Guérande ou de la fleur de sel de Camargue. Quel serait votre choix ? Et là, politiquement, ça en dit long.
Dis donc, Emilio, hein ?
De toute façon, nous, on ne consomme que du sel de Guérande, la fleur de sel, précisément.
Ouais.
Et produit par l'oncle d'Agathe.
Alors, il est à
Guérande. Oh, c'est merveilleux ! Oh, un grand bonjour aux paludiers, tous les paludiers qui sont nos amis.
François, merci de ce cri du cœur. Les filles, vous êtes prêts ? Il est à quelle heure l'examen ?
On y aille, je pense.
On y aille, là.
Ok, ça va bien se passer. Si vous le réussissez, vous êtes quoi après ?
En deuxième année.
Bon, bah, c'est ça. Et peut-être après la troisième, la quatrième, la cinquième, et jusqu'à huit. À quelle année on arrête ?
Oh, bah, ça dépend. Ça dépend de nos ambitions, mais...
Toi, tu m'as dit, j'ai envie d'en croquer.
Ouais, plutôt. En fait, bon, on verra après le master, mais...
Macron n'a même pas 40 ans. Et lui aussi, tu sais, il est allé au Louvre et fait ses examens. Aujourd'hui, il est là, il est au second tour de la présidentielle. Est-ce que toi aussi, un jour, peut-être, jeune fille qui mange ton bain fait maison, tu seras au second tour de la présidentielle ?
Peu de chance. Bon, après, je veux dire... Peut-être dans une ambassade allemande pour traduire leurs textes.
Mais... Dans une ambassade allemande. Un jour ou l'autre, nous serons tous dans une ambassade allemande. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Je vous embrasse. Merci de votre gentillesse et de votre pain beurré. Bonne chance. Et merde. Et merde, comme dit Jacques souvent. Salut, à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Sonova, la chanteuse malienne Oumou Sangaré avec Kamelemba. Thomas.
Oui, et tout de suite, on va parler odeur, parfum, senteur, fragrance.
Les productions présentent pour la première fois à la radio un conte en odorama.
Sur les planches de la cour d'honneur du Palais des Papes, Marcel Marceau.
La montée et la descente d'un escalier. Je descends l'escalier.
Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le tour de magie que je vais faire juste maintenant.
Sentez ici un pot ou un sac de café.
Est-ce que votre carte a disparu?
Oui.
Sentez une bouteille de vin.
Alors c'est quoi la lumière? Bien, pour y voir un peu plus clair,
sentez-vous un dessous de bras.
On va regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une ampoule classique.
Sentez un cendrier plein.
Choupi a égaré toutes ses affaires. Aide-le à les retrouver. Regarde bien. Dès que tu vois un objet, clique dessus avec ta souris.
Non mais sans déconner, regardez bien.
Sentez un chien mouillé.
Non mais arrête! Ils connaissent pas la langue des signes, ils peuvent pas la comprendre.
Bravo! Tu as réussi!
Sentez une couche de bébé pleine.
Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur insupportable?
Ah, je crois qu'on a fait le tour.
Il te manque encore des objets à trouver.
Voilà, comme une bande-annonce signée Charlène Nouilloux de l'entretien qui va commencer tout de suite parce que nous allons parler d'une revue. On aime bien parler de temps en temps dans Plus près de toi de revues qui se lancent ou encore toutes fraîches. C'est le troisième numéro de la revue Née, N-E-Z. C'est le numéro printemps-été qu'on trouve ces temps-ci dans les librairies. Bonjour Jeanne Doré.
Bonjour.
Bonjour Patrice Revillard.
Bonjour.
Vous êtes Jeanne Doré, vous êtes la rédactrice en chef de Née.
Oui.
On apprend dans cette revue que vous aimez deux choses dans la vie, sentir et écrire.
Entre autres.
Voilà. Et Patrice Revillard, vous êtes vice-président de l'Olfactorama. Vous avez écrit aussi dans Née.
Également, oui. J'écris dans Née, je suis parfumeur et vice-président de l'Olfactorama.
Qu'est-ce que c'est l'Olfactorama?
C'est un prix qui récompense tous les ans les sorties, les nouveautés dans l'industrie du parfum, aussi bien dans la parfumerie grand public que plus confidentielle.
Alors, la revue Née n'est pas, et évidemment, pour qui s'intéresse au parfum, c'est une revue très intéressante, mais ce n'est pas que destiné, si j'ai bien compris, si je l'ai bien lu, au monde professionnel du parfum et du luxe, Jeanne Doré.
Alors, pas du tout. C'est une revue de société qui s'adresse à tout le monde, puisque tout le monde a un nez, donc tout le monde sent, enfin quasiment tout le monde, sauf maladie particulière. Donc, ce qu'on propose avec Nez, c'est un peu de voir le monde avec ses narines, à travers le filtre de l'odorat. Donc, on aborde plein de sujets. Il y a des sujets historiques, scientifiques, littéraires, de société. On aborde évidemment la parfumerie avec un angle différent de celui qui existe habituellement dans la presse traditionnelle.
Mais ça n'existait pas. C'est-à-dire que ce rapport au monde sensible, évidemment, cet angle-là était, en tout cas sous cette manière de faire, hors profession justement, C'était un angle mort dans l'édition, dans la manière de parler du monde même.
Oui, en fait, dans la presse papier, il y avait un peu un vide. Alors, il y a eu quelques tentatives déjà il y a quelques années, mais qui n'ont pas duré très longtemps. Aujourd'hui, en fait, les gens qui écrivent sur l'odorat et le parfum, c'est surtout sur Internet. Il y a beaucoup de blogs et des articles, mais qui sont très dispersés. Donc, quand on s'intéresse au sujet, c'est très difficile de trouver un lieu, un endroit où on va lire des choses un peu creusées, un peu intéressantes sur le sujet. Donc, nous, c'est ce qu'on a eu envie de faire, c'est rassembler tous les gens qui s'intéressaient à l'odorat à travers plein de filtres différents. Donc, on va retrouver des artistes qui font de l'art olfactif, des scientifiques qui travaillent au CNRS sur comment fonctionne l'odorat dans le cerveau, des parfumeurs, évidemment, qui voient la parfumerie comme un art.
Mais c'est vrai que c'est au diapason, la ligne éditoriale de Née est au diapason de pas mal de choses qui se passent. Par exemple, les historiens, depuis, bon, ça fait quelques années maintenant, mais c'est assez récent d'aborder l'histoire par le sensible. Vous abordez le monde par le sensible et donc là, en l'occurrence, par le nez.
Oui, c'est ça. Donc, on essaie d'avoir une approche plurielle et avec des choses aussi très, très terre à terre du quotidien, comme expliquer qu'est-ce que ça sent les odeurs de voiture, comme l'essence, la voiture neuve, le cuir. Donc ça touche tout le monde. On essaie vraiment d'être proche du quotidien, ou d'aller par exemple faire une balade à Montmartre avec un parfumeur et d'aller capter chaque odeur et d'aller la disséquer.
C'est de la littérature ?
Il y a de la littérature, ouais, oui. Mais pas que.
J'ai une conviction depuis des années, alors je voudrais poser la question. Est-ce que vous pensez que l'anosmie est une maladie somatique ? C'est ce que je pense, moi.
L'anosmie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de goût ni d'odorat.
Oui. J'ai beaucoup d'amis anosmiques et c'est très douloureux. Hein. Ils sont très, très malheureux. Oui. C'est une infirmité terrible. Et moi, je suis convaincu que c'est somatique et non pas...
C'est une manière de vouloir se couper du monde, en fait.
C'est possible dans certains cas. Malheureusement, je pense qu'il y a quand même des cas qui sont vraiment d'ordre biologique et physiologique. Mais effectivement, il y a des cas...
Qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas à ce moment-là ? Parce que redites-nous rapidement comment l'odeur arrive à notre cerveau.
Alors, le circuit olfactif, en fait, entre le nez et le cerveau, c'est un des plus courts, en fait, par rapport aux autres sens. Donc, on a des petits capteurs dans le nez qui sont directement reliés à des neurones et qui vont passer directement par un circuit qui est assez archaïque dans le cerveau, qui est directement lié à la mémoire et aux émotions. Et ensuite, qui va aller dans le cortex, en fait, qui, lui, va
mettre
des mots, quelque chose de cognitif. Et dans l'anosmie, alors je suis pas spécialiste du tout de ce problème, mais ça peut être à différents niveaux, soit au niveau des récepteurs, soit dans le circuit justement qui est très court, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Ça peut être aussi des maladies qui obstruent en fait les récepteurs, mais ça peut être aussi dans le cerveau.
Patrice Rivière, justement, vous devez, je sais pas, j'imagine, est-ce que vous assurez votre nez ou ce circuit-là qui vient d'être décrit par Jeanne Doré, vous en tant que parfumeur, vous devez faire attention à ça.
J'y tiens comme elle apprenait de mes yeux. Oui.
Une cigarette.
Beaucoup de parfumeurs fument, moi personnellement non, mais on a tendance à croire qu'un parfumeur c'est quelqu'un de très sain, qui fait attention à tout, mais un parfumeur c'est quelqu'un comme tout le monde, qui profite de la vie, et il y a beaucoup de parfumeurs qui fument. Mais oui, j'y fais attention, très attention.
Est-ce que vous avez un goût plus développé aussi ?
Oui. Bah, le goût en soi, enfin c'est plus c'est du parfum, c'est les odeurs, le goût, c'est le salé, le sucré, et ça c'est différent. Mais oui, je pense que ça se développe, les deux se développent, et les personnes qui sont très sensibles aussi gustativement le son et le savent pas forcément olfactivement.
Et comment vous l'avez découvert d'ailleurs, cette sensibilité, vous personnellement ?
Moi, c'est une passion depuis très jeune pour les plantes, la botanique, et c'est ce qui m'a emmené ensuite au parfum.
Alors voilà, vous signez d'ailleurs un article dans Nez sur le cassis. On découvre qu'il y a un musée du cassis.
Exactement.
À Nuit-Saint-Georges.
Oui, voilà. Le cassisium.
Le cassisium. Mais la thématique centrale de ce numéro 3 de la revue Nez, c'est le sexe des parfums. Et inversement, Jeanne Doré, parce qu'il y a tout un dossier. Et évidemment, j'étais même étonné que ce soit au numéro 3 que vous abordiez cette question-là. Ça paraît presque une évidence à traiter. Et c'est tout un dossier. Vous avez été loin dans le sujet.
Il y a beaucoup d'évidences en stock pour,
voilà,
pour les prochains.
On doit se dire qu'il y a du travail. Voilà, il y avait besoin d'une revue.
On n'a pas fini encore d'épuiser les sujets évidents. Bah oui, c'est une évidence, parce que quand on pense odeur, parfum, on pense forcément séduction. C'est un peu le cliché de la parfumerie. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à aborder entre ces deux thèmes-là. Donc évidemment, d'abord, le genre des parfums. Mm-hmm. Parce qu'on pose souvent la question, est-ce que le parfum est unisexe ? Comment on peut savoir si c'est pour homme ou pour femme ? Bon, nous, on est allé plus loin. On a essayé d'aller creuser vraiment dans l'histoire de la parfumerie. D'où vient le parfum et comment il est devenu... d'abord un artifice assez féminin lié à la féminité, et puis petit à petit comment il est entré dans le monde masculin, ce qui n'était pas une évidence.
Pour aller vers l'ambiguïté finalement, aujourd'hui,
pour
non ?
Déjà que la parfumerie masculine existe, mm-hmm. Et ensuite effectivement revenir vers une ambiguïté, parce que quand on connaît d'où viennent ces codes olfactifs qui sont totalement arbitraire, hein. C'est vraiment lié à notre société, il y a des choses qu'on a posées là.
Mais c'est culturel.
C'est très culturel, et il n'y a rien dans la nature qui dit que les hommes ils doivent porter du bois et les femmes des fleurs. C'est vraiment très, très culturel et très symbolique aussi.
Si, puisqu'on dit le bois et la fleur.
Ah, ben,
c'est vrai.
Voilà, c'est du même ordre. Voilà, donc après, on peut relier ça à toute l'industrie du parfum qui utilise justement toute cette séduction, cet imaginaire pour vendre les parfums. Hein. C'est le message, il est toujours un peu le même. C'est achetez mon parfum, vous aurez plus de chances pour séduire. Et donc, vous
serez plus heureux. Oui, il y a toute l'imagerie de la publicité.
Voilà, donc ça, on a essayé aussi de décortiquer un petit peu ça en interrogeant des personnes qui travaillent là-dessus. Ensuite, on s'est intéressé à savoir comment ça fonctionne finalement dans le cerveau un petit peu.
Il y a toute l'animalité de la question.
Voilà, quand on sent quelqu'un, les phéromones. Quels sont les mécanismes en fait neurobiologiques qui font qu'on est attiré par quelqu'un ou pas. Donc ça, c'était plus l'angle scientifique. Et enfin, on a essayé de dire toute la vérité qui était connue à ce jour sur les phéromones, parce que ça, c'est aussi le sujet qui revient toujours. C'est est-ce que les phéromones, ça marche? Il y a évidemment plein de produits qui en contiennent et qui sont supposés...
Et vous répondez que c'est pour les animaux où ça se défend, pour l'être humain, il y a d'autres choses qui se passent.
On répond qu'en fait, c'est compliqué. On aurait bien aimé avoir une réponse hyper simple, hyper claire. Et en creusant, en fait, plus on creusait, plus on se rendait compte que finalement, la réponse, elle n'était pas simple. En fait, il y a encore beaucoup d'inconnus et beaucoup de choses à découvrir. Mais on a essayé de poser à plat tout ce qui était connu aujourd'hui dans les dernières recherches. Voilà. Donc, ça pose un petit peu un état des lieux. Et ouais, c'est pas simple. Et non, ça marche pas forcément. Mais voilà, c'est plus compliqué que ça.
Au jardin botanique de Montréal, il y a un espace formidable où il y a une quarantaine de plantes qu'on peut toucher, qu'on a le droit de toucher, et qui donc ont des odeurs très, très particulières. Et je serais passionné de savoir si tout le monde, justement, donne le même sexe à la même plante. On devrait trouver quelque chose d'assez... On devrait même pouvoir trouver une différence entre les orientations sexuelles.
À l'intérieur de ce jeu-là, un jeu à venir peut-être à la radio.
Ouais.
C'est numéro 3 de la revue Née est paru. Donc, printemps-été 2017, le sexe et les parfums, le parfum et le sexe, c'est la thématique, il n'est pas question que de ça. Merci beaucoup Jeanne Doré, merci beaucoup Patrice Revière.
Merci à vous.
Par là ce matin.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. Édouard Baer.
On est toujours dans la rue, là, avec Jacques. Alors, il y a... Ah oui, on entend sa voix après. Et alors, on a croisé là un mec moldave et Jack lui a chanté une chanson russe. Enfin, il est très fort, ce Jack, souvent. Alors, François, je sais que vous n'avez pas usurpé ce titre de professeur Rollin, mais ce n'est pas au professeur qu'on s'adresse aujourd'hui, puisqu'on vous a laissé avec Lou Salomé qui est venu nous dire un poème.
Oui, alors je ne sais encore rien sur le poème. Je pressens qu'il est beau, je pressens qu'il est fort et intense, mais je ne sais pas qui l'a signé. Tu me le dis, Lou, qui l'a signé, ce poème?
Jean-Pierre Siméon.
Jean-Pierre Siméon. Formidable. Bon, ben moi, je dis que dans les conditions où on est maintenant, le mieux, c'est encore d'ouvrir grand nos oreilles, puisque nous avons déjà utilisé notre nez tout à l'heure, et puis d'écouter ce joli poème.
C'est bon, ça.
Et ben ça, c'est quand tu veux, maintenant.
Ce poème, je voudrais le dédicacer à Johanna. La différence. Pour chacun, une bouche, deux yeux, deux mains et deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence, la mystérieuse différence? Jean-Pierre Siméon.
Il me semble, Édouard, que c'est un texte qu'on a déjà entendu à cette antenne, non?
Il a été spécialement bien dit par Lou Salomé, là, je l'ai entendu différemment. C'est ça qui est beau, c'est la façon de le dire change.
Ben oui, et puis de toute façon, c'est comme ça qu'on rentre dans la Pléiade, hein, c'est en étant dit et redit. C'est fait pour ça, la poésie, pas vrai, Édouard? Alors, voulez-vous dire une petite poésie, Édouard? Allez-y, oui, je sens vous bouillez.
Vous savez, il y a la Pléiade des auteurs, puis il y a la Pléiade de ceux qui écoutent. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un poème que j'aimais beaucoup, c'était... Le rideau de ma voisine se soulève lentement. Elle va, je l'imagine, prendre l'air un moment. On en trouve la fenêtre, je sens mon cœur palpiter. Elle veut savoir peut-être si je suis aguetté. Mais hélas, ce n'est qu'un rêve. Ma voisine aime à lourdeau. Et c'est le vent qui soulève le coin de son rideau.
Oh.
C'est mignon, hein?
Elle est
Vous embrassez très fort Lou Salomé. Vous lui expliquez que pour des raisons d'hygiène mentale, j'ai dû aller marcher dans la rue.
Elle a un sourire très joli. Donc elle vous répond par un très joli sourire, Édouard.
Où tu en es de tes dents, Lou Salomé? T'as encore tes dents de lait ou t'as déjà toutes tes dents de grande?
Bah, j'ai des dents de lait, des dents de grande.
T'en as encore combien qui doivent tomber?
Bah, je sais pas trop.
Une soixantaine.
Encore 60 à tomber. Salut, bravo, Lou Salomé.
Merci.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Ah, qui veut lancer les infos dans ce studio? Allez, on se dévoue.
Qui veut le faire?
Alors,
François
Rollin. Mais alors comment ça se lance les infos? Est-ce que c'est aussi simple que de dire par exemple Thierry Paret nous présente les informations? Un truc comme ça, ça serait cool.
On peut le faire comme ça. Vous dites rien, Edouard, comme j'ai pris sa place, hein, c'est pas, hein, bon, ça reste entre nous. C'est donc une nouvelle campagne électorale qui commence pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats sont repartis pour un tour, c'est le cas de le dire. Ils vont être sur le terrain dès aujourd'hui. Au programme de Marine Le Pen, ce mardi, un déplacement au marché d'intérêt général de Rungis, tandis que Emmanuel Macron, lui, est attendu dans sa ville natale, Amiens, pour une rencontre avec les salariés de l'usine Whirlpool, usine dont les responsables veulent délocaliser la production en Pologne l'an prochain. L'équipe de campagne de Marine Le Pen a promis un déplacement de leur candidate par jour. Deux jours sont prévus dans l'est du pays, notamment, hein, où le FN a réalisé des résultats importants avant la préparation d'un grand meeting du côté de Nice, sans doute jeudi prochain. Emmanuel Macron a prévu pour sa part plusieurs meetings, mais le temps fort de cet entre-deux-tours, ce sera bien sûr le traditionnel débat télévisé entre les deux candidats. Il aura lieu mercredi, pas demain, mais dans une semaine, le mercredi 3 mai. Invitée du 20h de France 2 hier soir, Marine Le Pen a déclaré qu'elle se mettait en congé de la présidence du Front National. Elle a expliqué cette décision au nom de sa volonté, je cite, de rassembler tous les Français. Elle a aussi émis son souhait d'un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan. La présence de l'extrême droite fait courir un risque à notre pays. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Déclaration de François Hollande qui rejoint ainsi la longue liste des personnalités politiques, hein, qui, de la droite à la gauche, appellent à voter pour le candidat du mouvement En Marche au second tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'en remet pour le second tour au choix des militants de son mouvement, hein, vous le savez, qui sont invités à s'exprimer sur Internet. Le résultat de cette consultation sera connu vendredi.
Oui, alors là, moi, je me permets de dire, moi qui ai voté Mélenchon, qu'il est mauvais joueur. Voilà. C'est pas parce qu'on a perdu qu'il faut oublier les valeurs assez fondamentaux.
Bon, alors, puisqu'on se lâche, je suis d'accord avec toi. Des syndicats étudiants et lycéens, mais aussi le mouvement SOS Racisme et Ni Pute Ni Soumise, ont organisé des rassemblements hier soir à Paris et dans plusieurs villes. 200 personnes environ se sont rassemblées place de la République à Paris, où on était quand même très très loin des rassemblements, hein, qui avaient eu lieu au lendemain de la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. Au lendemain de sa défaite, François Fillon, lui, s'est exprimé devant les dirigeants du parti Les Républicains, qui étaient réunis en bureau politique hier. Je n'ai plus la légitimité pour livrer le combat des législatives, c'est ce qu'il a indiqué. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres, je vais devoir penser ma vie autrement, penser aussi les plaies de ma famille. Les élections législatives, elles se tiendront, hein, pour rappel, les 11 et 18 juin. Dans le reste de l'actualité, un hommage national va être rendu tout à l'heure à Xavier Jugelet, 37 ans. Xavier Jugelet, c'est ce policier abattu jeudi dernier sur les Champs-Élysées à Paris. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront sans doute sur place. Les prisons françaises battent encore un triste record. Au 1er avril, il y avait 70 230 personnes détenues dans les établissements pénitentiaires pour une capacité d'accueil de seulement 58 664 places, de quoi renforcer la colère du personnel pénitentiaire qui a entamé ces dernières semaines des mouvements de grève dans plusieurs établissements. Plus d'un millier de détenus palestiniens continuent leur grève de la faim dans les prisons israéliennes. Ils réclament toujours des conditions de détention plus humaines. Et au 8e jour de cette grève, les premiers signes de fatigue ont fait leur apparition. Les conditions de santé de Marwan Barghouti, par exemple, très populaire dirigeant du Fatah en prison depuis 14 ans et de plusieurs autres détenus, se serait dangereusement dégradé. Pour la première fois aux États-Unis depuis 17 ans, l'Arkansas a procédé hier soir à une double exécution de deux condamnés à mort. Leur décès s'inscrit dans un calendrier très controversé d'exécution accélérée en Arkansas en raison de la proche péremption d'une substance utilisée dans les injections, les injections mortelles bien sûr. Le dernier État américain à avoir exécuté deux détenus en un jour, c'était le Texas et c'était en 2000. Les États-Unis, toujours, qui viennent de relancer un vieux conflit commercial avec le Canada en mettant en place des taxes sur les importations de bois de construction canadien. Une action commerciale injuste et injustifiée selon le gouvernement canadien qui envisage de porter l'affaire devant les tribunaux.
Edouard Baird est dans la rue ce matin en compagnie de Jack Souvent. Et pourquoi on n'irait pas nous aussi? Non, personne, je suis tout seul.
Dans la rue, moi je t'accompagne.
Non, on y va. Allez.
Oui, oui.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
7h-9h, plus près de toi.
Vous êtes,
vous venez d'entendre le démarrage de la friteuse, Maximilien ?
Tout à fait, la friteuse pour faire cuire les nuggets.
Voilà, beaucoup de gens me demandent chez McDo comment cuire les nuggets. On refait un petit coup de friteuse. C'est sympa, c'est ludique, c'est frais. On est avec toute l'équipe du McDo Rue Diderot.
Exactement, Rue Diderot, Paris 12e.
Alors, soyez gentils, à l'appel de votre prénom, vous me dites vos titres, parce que je ne sais jamais chez McDo, c'est qu'il y a un manager qui sait tout ça. Alors, Antoine.
Manager.
Antoine, manager. Sylvain.
Directeur.
Lévis.
Équipier.
Maximilien.
Directeur adjoint.
Jean-Édouard.
Équipier.
Alors, maintenant, on m'explique un petit peu qui est le chef ici. Donc, c'est le directeur. Sylvain, venez plus près là. Ça se voit parce que vous avez un pull bleu. Est-ce que c'est un pull patronal?
Ah bon, c'est un pull patronal, ça, je crois pas, non.
Alors, c'est très masculin toute la journée ou après il y a des équipières aussi qui viennent?
Ah, il y a plein d'équipières aussi, c'est mix, 50.
Jean-Édouard, est-ce que quand vous avez pris ce boulot de venir être équipier ici, vous avez dit c'est sympa parce que c'est mix?
Non, je ne me suis pas posé de question.
Alors, pas à moi.
En fait, je savais que j'allais rencontrer des filles, des garçons. C'est tout à fait logique. Dans un McDo, j'ai l'habitude d'aller manger dans les McDo et je sais à peu près comment ça fonctionne.
Donc vous étiez client, vous êtes passé, vous êtes mis à bosser là. C'est un boulot que vous faites combien d'heures? C'est un plein temps?
Oui, c'est un contrat de 104 heures par mois.
Comment ça fonctionne un peu ici entre vous? C'est quoi la vie d'un McDo là? Là, à 9h, par exemple, il y a des premiers clients. Qui va manger de la viande à 9h?
Comment dire,
hein, les amoureux de la viande.
C'est vrai que j'ai vu des gens rouler des pelles à de la viande à l'entrée.
Je fais pas vraiment attention à qui mange de la viande ou pas.
Vous avez le temps de parler un petit peu, parfois c'est sympa, vous avez de parler un petit peu à des clientes ou ça va trop vite?
Ça m'arrive des fois quand il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup de personnes, quand il n'y a pas beaucoup de... Voilà, quand ça circule bien, on peut communiquer tranquillement.
Il y a des habitués ici, Antoine. Il y a des gens qui viennent ici comme dans un café de quartier.
Oui, parce qu'on est dans un restaurant de proximité. Donc c'est souvent les gens, avant d'aller au boulot, qui viennent chercher, qui viennent prendre un café ou des pâtisseries.
Il y a des grosses engueulades ici. Ça se passe comment, Sylvain?
Franchement, un super quartier.
Non, mais entre vous. Il y a Lévis qui s'éloigne. Lévis, vous revenez tout de suite. Hein. Il y a Lévis qui est l'équipier cuisine, vous. C'est pas les mêmes qui sont en salle et en cuisine.
Non, mais on est censé être polyvalent.
Qu'est-ce que vous préférez, vous?
Les deux.
Alors, en cuisine, c'est dur parce que quand même, ça peut sentir l'huile quand même. Ça reste sur les fringues ou ça va?
Oui, ça s'imprègne, on sent. On sent quand on sort du travail, on sait qu'on a travaillé au McDo.
Bon, bah alors ça, quoi. Donc, quand vous rentrez, c'est la douche totale, cheveux, tout. Lévis, venez là.
Oui, tout à fait. Après, oui, on a un travail bon, exigeante, effectivement, il faut prendre une douche, relaxer.
Et on part à zéro. Est-ce que vous avez des lunettes? Est-ce qu'elles sont déjà tombées dans la friteuse?
Non, jamais.
Est-ce que c'est une question de merde? Est-ce que c'est une très mauvaise question? Jack, reprenez le micro, vous êtes meilleur que moi. C'est assez sympa, là, on est à la cuisine, tout le monde est... Il y a l'air d'avoir plutôt une bonne ambiance entre les équipiers ici.
Bah oui, tout à fait. Moi, ce qui est étonnant, là, c'est qu'on n'entend absolument rien au casque, en fait, parce que vous êtes là avec nous, Edouard, dans la rue, et donc on n'a pas de retour. C'est étonnant.
François, qu'est-ce que vous en êtes tout en studio?
Ici, on vous écoute avec attention. On est content que... vous nous fassiez découvrir cette grande chaîne de sushi sashimi, qui est McDo.
Oui.
Et puis on s'est rendu compte que...
écossais, vous savez, je sais que vous étiez très proche de Ronnie McDonald à l'époque. Oui. Vous fréquentiez beaucoup avec Ronnie, vous faisiez des animations ensemble. Hein, il existe vraiment Ronnie McDonald ou pas?
Non, on a encore pas eu le bonheur de le rencontrer.
Alors pourtant, moi je sais qu'il y a des anniversaires d'enfants où il se déplace. Est-ce qu'il arrive en avion privé des États-Unis, Ronnie Maximilien?
Ah, c'est une bonne question, j'aimerais bien savoir, parce que le loulou, on le voit jamais, hein.
On le voit jamais. Il y a des plaintes chez les équipiers. Ronnie est sympa, mais il ne passe pas assez dans les restaurants de proximité.
Il est déjà venu. Il est venu.
Oui. Ronnie est venu lui-même. Le mec, ça va. Hi, guys! C'est tout ça.
Ah, oui. Il était venu en avion en plus.
Ben voilà, vous voyez tous ceux. Alors, on va les laisser travailler. François, vous auriez une question? Vous auriez une question qui vient du cœur?
Oui, quelle marque de pommes de terre vous utilisez pour faire les frites?
Les pommes de terre, c'est quoi?
C'est des pommes de terre françaises en tout cas.
C'est de la Claudine de Charlotte. Il y a de la Charlotte, il y a de la Claudine, de la Françoise. Tout se passe bien. Un morceau de Jacques Souvent vient d'être transformé en hamburger au moment où je vous parle, parce que par inattention, il a laissé sa main. Merci messieurs, on repart dans la rue. Merci de votre accueil. À tout de suite. Hein.
En route vers le Quick.
Oui. Mon mec,
Alka Balbir et Philippe Catherine, c'était mon mec,
c'est
en avant.
Oui, c'est son mec, c'est le titre de la chanson. Nous, on est protégés à une station de bus, c'est quel bus, Jack? 57. Et à la station du 57, vous attendez le 57 tous les jours?
Non.
Vous avez dit aujourd'hui j'ai envie du 57.
Non, je dois aller quelque part et le 57 y va.
Bien, écoutez, ça me semble assez logique comme réponse. Merci madame. On est très en demande de l'animal du mardi de Jacques Souvent ici à l'arrêt du 57.
L'animal du mardi.
Alors, l'animal du mardi, c'est le loup. C'est pour faire plaisir à Ben. Que vous recevez tout à l'heure, hein, parce que le loup est central dans l'œuvre de cet artiste, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Par exemple, Garou n'a jamais chanté le loup. Hein. Bon, de surcroît, le loup a une qualité unique dans le règne animal, c'est que son nom nous renseigne sur son cri. Hein, il s'appelle loup et il fait ouh, ouh, ouh. Alors que le chat ne fait pas ah, ah. Le chameau ne fait pas oh, oh. L'éléphant ne fait pas « en », c'est l'âne qui fait « en » quand il ne fait pas « i ». La brebis ne fait pas « i », la tortue ne fait pas « u » et le rossignol ne fait pas « gnol » Marcel. Mais le loup fait « ou », hein, chaque chose est à sa place et les vaches sont bien gardées. Alors maintenant, il y a 9 espèces de loups vivant sur le territoire français. Le loufoque, qui fait bien rigoler tout le monde. Le loufia, qui est domestique. Le loup chebem, qui fournit de la viande de boucherie. Le loupiote, dont les yeux sont phosphorescents. Le louvier qui vit sur la route, d'où la chanson « Sur la route, le louvier ». Ensuite, venu de Chine, nous avons le looping, très fort en acrobatie. Venu d'Égypte, le loukoum, un peu lourd. Et puis le loustique qui transpire beaucoup. Et pour terminer, le louange qui dit beaucoup de bien de la rubrique « L'animal du mardi ». Et ça, c'est hyper sympa.
François, est-ce que vous êtes fier de vous?
Je sais que je vous fais plaisir, je sais que vous êtes un fan de jeux de mots, j'ai remarqué, surtout quand vous êtes en phase de séduction, vous redoublez de jeux de mots avec les jeunes filles.
Merci de nous éclairer, cher François.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Mais oui, c'est elle. Bonjour Marie.
Bonjour Thomas, bonjour là-bas à vous, Jack Souvent, Edouard Baird. Bonjour François, Armel.
Bonjour Marie.
Vous-même les auditeurs.
Bonjour Marie.
La politique française ressemble à une île des Caraïbes ravagée par un ouragan qui aurait détruit les fenêtres et les portes de toutes les vieilles maisons. La métaphore filée est de Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Il parle aussi d'une plante chelou et grimpante qui aurait pendant ce temps-là tout envahi. La une des journaux est d'ailleurs un avertissement en bonne et due forme à cette plante grimpante. J'ai nommé Emmanuel Macron et aux électeurs français. L'heure n'est pas venue de se réjouir. L'avertissement est de West France. Le plafond de verre pour Marine Le Pen est de plus en plus fragile, dit le Parisien, dont la une rejoint les autres. Non, tout n'est pas encore joué. Même le New York Times estimé hier en une, ne comptez pas sur une victoire de Emmanuel Macron. Le triomphalisme est interdit, conclut en édito La Croix. L'autre grand thème des journaux aujourd'hui, c'est la fracture. Cette France qu'il faut penser, qu'il faut bander. De La Croix au Monde, tout le monde a sorti ses cartographies du vote. C'est une France coupée en deux pour le Parisien. Macron, Le Pen, les deux France. C'est la une du Monde, tout juste retournée par celle des Échos. Les deux France de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour West France, l'affrontement Macron-Le Pen, c'est du chimiquement pur. Le haut contre le bas, le mondialisé contre le démondialisé, la périphérie contre les grandes villes. Bref, du gros classique, les gagnants de la mondialisation versus ceux qui se sentent laissés sur le bas-côté. Seule La Croix sort une analyse un petit peu plus fine. Pour elle, il n'y en a pas deux des France, il y en a trois. Les deux France précédentes et antagonistes citées plus haut, on les connaissait déjà, dit La Croix, la fracture est ancienne. Les cartes de vote de dimanche sont les mêmes que celles du traité de Maastricht en 92. Il n'y a pas donc de France, il y en a trois. On se serait tenté de dire qu'il y en a encore plus. L'incroyable percée de Mélenchon, ajoute La Croix, brouille les cartes. Avec lui, qui draine une partie de la jeunesse française, il y a une troisième voie complètement opposée à l'antimondialisme radical de Marine Le Pen, plutôt tournée vers l'avenir, qui n'accepte simplement pas les règles actuelles de la mondialisation. C'est ce troisième groupe, dit La Croix, qui a signé la mise à mort des partis et va transformer en profondeur le paysage politique. Le défi, donc, consiste à faire de ces trois pays un seul pays pas trop schizophrène. Et la difficulté est bien résumée dans un article du Monde qui n'a rien à voir sur la marche des sciences qui a eu lieu samedi aux États-Unis et ailleurs. Les scientifiques américains sont exaspérés par le rapport de Trump à la vérité. On rappelle que pour lui, les changements climatiques, eh bien, c'est un petit complot de la Chine pour affaiblir les États-Unis. Robert Yang, lui, qui n'a pas défilé, met le doigt sur la réelle difficulté à les manifester. C'est facile, il dit, consacrer les deux prochaines années à réinventer la façon de communiquer avec l'Amérique conservatrice, voilà qui est difficile. Le risque de ne pas être entendu pour la science est un risque qui concerne absolument tout le monde. On le voit dans un article de La Croix consacré à la ville d'Absest dans l'Oural, en Russie, une ville tout entière consacrée à la plus grande mine d'amiante à ciel ouvert. Tous les habitants ont vaguement entendu parler de ces histoires de cancer, mais personne n'y croit vraiment. Pour beaucoup, croisé par le journaliste, c'est un complot occidental pour affaiblir l'économie russe. Toute ressemblance avec ce que je viens de dire de Trump et les changements climatiques n'est pas fortuite. Communiquer, voilà le défi, même si ça me fait penser à ce poème d'Henri Michaud. Communiquer, toi aussi tu voudrais communiquer. Communiquer quoi? Tes remblais, la même erreur toujours. Vos remblais les uns les autres. Tu n'es pas encore assez intime avec toi, malheureux, pour avoir à communiquer. On n'est pas sorti de la petite auberge.
Terminé sur du Henri Michaud, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? C'est beau, poésie actualité.
J'aime beaucoup cette poésie d'Henri Michaud.
Ah, on la réécoutera dans une autre revue de presse.
Eh ben oui, je vais le dire à chaque fois, chaque fin de revue de presse.
C'est une belle signature. Merci Marie Misset.
On peut enchaîner sur de la pub, si vous voulez.
Ah ouais, c'est beau comme du Henri Michaud.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
C'était complètement fou. Il y a un immeuble qui s'est effondré ou qui a été détruit. Derrière cet immeuble, un château est apparu. On va se tourner avec Mila et Liam là, qui vont à l'école. Et ton frère, il est parfaitement devant toi. Il habite là.
Vous êtes sous les remblais, manifestement. Hein. On vous entend très mal.
C'est peut-être de votre faute.
Oui, c'est certainement de notre faute.
Mila qui va avec son frère à l'école, c'est les fameuses 2 minutes juste avant l'entrée. Mila est supprimée avec Colin, par exemple.
Non, mais je crois que le studio passe sous un tunnel, je suis vraiment désolé.
Hein? Ah bon, bah, c'est pas nous, c'est pas nous.
C'est...
on était juste devant l'école avec Mila et Liam, on était les enfants qui sont
prêts. Tout ce qu'on arrive à faire ici, c'est deviner que vous dites des choses très intéressantes, mais c'est vraiment seulement... on ne peut pas faire plus.
Bon, bah, alors,
la chanteuse Brisa Rocher avec Boston Beam à l'instant, c'était Jamaican Boy. Alors, Edouard Baird est dans la rue ce matin avec Jack Souvent. On les entendait peu hein, à l'instant.
Ils étaient très loin dans la rue.
Très très loin, je crois qu'il y a un petit problème de pile. On les retrouvera dans un instant.
C'est le journal de Thierry Paré.
C'est donc une nouvelle campagne électorale qui commence pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats vont être sur le terrain dès aujourd'hui. Au programme de Marine Le Pen, un déplacement au marché d'intérêt général de Rungis ce mardi. Tandis que Emmanuel Macron, lui, est attendu dans sa ville natale, c'est Amiens, pour une rencontre qui s'annonce électrique avec les salariés de l'usine Whirlpool, usine dont les responsables veulent délocaliser la production en Pologne l'an prochain. L'équipe de campagne de Marine Le Pen, elle a promis un déplacement de leur candidate par jour. 2 jours sont prévus dans l'est du pays notamment, où le FN a réalisé des résultats importants. Avant la préparation d'un grand meeting, c'est comme ça qu'il est vendu en tout cas, du côté de Nice jeudi prochain. Emmanuel Macron lui a prévu pour sa part plusieurs meetings, mais le temps fort de cet entre-deux-tours, ce sera évidemment le traditionnel débat télévisé entre les deux candidats. Il aura lieu le 3 mai, donc mercredi, pas demain, mais dans une semaine. Invitée du 20h de France 2 hier soir, Marine Le Pen a déclaré qu'elle se mettait en congé de la présidence du Front National. Elle a expliqué cette décision au nom de sa volonté, je cite, de rassembler tous les Français, et elle a aussi émis son souhait d'un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan. La présence de l'extrême droite fait courir un risque à notre pays. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Déclaration de François Hollande, qui rejoint ainsi la longue liste des personnalités politiques qui, de la droite à la gauche, appellent à voter pour le candidat du mouvement En Marche au second tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'en remet, vous le savez, pour le second tour au choix des militants de son mouvement qui sont invités à s'exprimer sur Internet. Le résultat de cette consultation, il sera connu vendredi. Des syndicats étudiants et lycéens, mais aussi le mouvement SOS Racisme et Ni Pute Ni Soumise ont organisé des rassemblements hier soir à Paris et dans plusieurs villes. 200 personnes environ, hein, se sont rassemblés place de la République à Paris. On était quand même très très loin, hein, des rassemblements qui avaient eu lieu au lendemain de la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. Dans le reste de l'actualité, un hommage national va être rendu tout à l'heure à Xavier Jugelet, 37 ans, le policier abattu jeudi dernier sur les Champs-Élysées à Paris. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront très certainement sur place. Les prisons françaises qui battent encore un triste record. Au 1er avril, il y avait 70 230 personnes détenues dans les établissements pénitentiaires pour une capacité d'accueil de 58 664 places. Donc de quoi renforcer évidemment la colère des détenus et du personnel pénitentiaire qui a entamé ces dernières semaines des mouvements de grève dans plusieurs établissements. Pour la première fois aux États-Unis, depuis 17 ans, l'Arkansas a procédé hier soir à une double exécution de deux condamnés à mort. Leur décès s'inscrit dans un calendrier très controversé d'exécution accélérée en Arkansas en raison, attention on s'accroche, de l'approche péremption d'une substance utilisée dans les injections mortelles. Le dernier État américain à avoir exécuté deux détenus en un jour, c'était le Texas et c'était en l'an 2000.
Thierry, pour que ce soit très clair, ça veut dire on les a fait mourir maintenant parce que sinon le produit risquait d'être un petit peu moins efficace dans une semaine.
C'est ça. Ouais. Ils auraient pu même peut-être être sauvés.
À quoi ça tient une vie, hein.
Pas grand-chose.
Et puis c'est plus compliqué de trouver des produits, en l'occurrence, que c'est l'industrie qui fabrique ça commence à avoir des états d'âme, paraît-il.
Effectivement, ah, oui, il y en a qui refusent aujourd'hui. Un dernier mot quand même pour vous dire qu'Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir parce qu'il y a une Indienne qui vient de remporter le titre sur 100 mètres. Alors c'est 1 minute 14 secondes, hein, c'est loin du record de Usain Bolt, mais elle a 101 ans, donc c'est le record des centenaires.
Les voisins dont me sépare la cloison font l'amour tous les jours avec une frénésie dont je suis jaloux. Ce sont des lignes écrites par Marcel Proust dans une lettre qui va être mise aux enchères demain au milieu de 307 lots qui sont issus de la bibliothèque d'un banquier genevois qui s'appelle Jean Bonnat. Et il ajoutait d'ailleurs, Marcel, j'envie ces gens qui peuvent pousser des cris tels que la première fois j'ai cru à un assassinat. Voilà pour les voisins de Marcel Proust.
C'est pas bien d'être
jaloux. Bah oui, bah voilà, après ça donne peut-être envie d'écrire.
À combien ça peut se vendre une.
Alors il n'y a pas dans ce que c'est une brève dans Libération ce matin, j'ai pas d'évaluation. Voilà, c'est une lettre du 15 juillet 1919.
Parce qu'il faut retenir.
On verra ça demain.
En tout cas, si quelqu'un veut m'en faire cadeau, je suis preneur.
Voilà. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le matériel de construction de l'époque était vraiment très mauvais.
7h, 9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Dare, un titre de Gorillaz remixé par DFA.
Bonjour. Bon, on est toujours. Pardon, je sais que Ben vient d'arriver en studio. Pardon, Ben.
Bonjour, Edouard.
Ben.
Bonjour.
Attendez, madame, restez avec nous une seconde. On est au Carrefour Market. J'ai été prendre l'air, c'est pour des régions.
Mais toutes ces marques, Edouard, ce matin, c'est lié à un partenariat particulier ou...
Non, mais c'est la vie. Vous savez, les murs de Paris sont couverts de marques, les noms propres, les noms communs, tout ça se mélange. Vous-même, vous êtes devenu une marque, Thomas Baumgartner. Il y a les slips, Thomas Baumgartner.
C'est vrai.
Mais si t'es à l'antenne. Madame, achetez des lentilles. Madame, ces lentilles, vous m'avez dit, c'est même pas pour aujourd'hui en plus.
Ben c'est pour plus tard.
Et pourquoi les acheter aujourd'hui?
Parce que comme ça, je les ai dans mon placard.
Donc, en cas de guerre, en cas de truc, vous avez... Pardon, monsieur. Oui, madame, si Le Pen arrive, j'ai mes lentilles à la maison. Et vous avez... Bon, alors qu'est-ce que vous avez eu à l'œil, là?
Je sais pas, je l'ai eu à l'œil, déjà, c'est déjà pas mal.
Non, parce que madame a un peu de conjonctive, parce qu'elle discutait avec Jacques souvent de recettes de lentilles. Je crois que c'est... Donc, ces lentilles vont être accommodées comment?
Elles vont s'accommoder à chaud avec des saucisses et des petits lardons.
Que vous avez aussi en réserve?
Oui, oui.
Alors prenez note, Ben, parce que ça, vous me disiez comment les gens mangent leurs lentilles en ce moment dans Paris. On marche avec vous dehors ou on vous laisse partir, madame?
Là, j'y vais parce que je m'occupe d'une personne âgée, donc elle m'attend.
Bon, bah alors vous l'embrassez très fort.
Bonne journée à vous.
Bonne journée. Ben?
Oui.
Je vous confie à François Rollin.
C'est gentil. Hein?
Je sais que votre spectacle est formidable puisque les gens dans la rue sont là, ils disent Ben.
Vous les entendez, ça me rassure.
Oui, et attendez, on est avec Jack, on se balade, on est au rayon, on va à la viande hachée. Il y a 15 catégories. Monsieur, vous en avez marre qu'on envahisse votre magasin?
Non, pas du tout, avec plaisir.
Vous êtes très aimable, monsieur, vous avez ouvert à quelle heure ce matin?
À 8h moins 4.
Vous avez des habitués?
Oui, c'est les voisins, c'est des personnes âgées, voilà.
Vous ne faites pas salle de jeu clandestine ou bar clandestin?
Non. Non, pas du tout.
Merci en tout cas. Allez, Ben et Roland, on vous écoute, hein, avec la bombe garcée.
Oh ben moi, alors là, on aura vite fait le tour, je veux dire. Merci, Ben, monsieur. C'est un spectacle absolument formidable, un des des meilleurs humoristes de grande qualité, le plus déprogéen de tous nos humoristes, bien plus que notre ami Gaspard Proust qui est maintenant un peu enfermé.
Allez, bim, prends ça dans ta tronche.
Dans le sylvestre grinçant. Mais Ben, c'est vraiment un spectacle formidable, merveilleusement bien écrit. Ben, il a aussi quelque chose de très charmant, il ne fait pas beaucoup de bruit, cet homme-là. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il est moins connu qu'il ne mériterait
d'être. Ce qui est embêtant à la radio d'ailleurs, quand on ne fait pas de bruit. Mais...
Ouais. Dans la vie en général, mais voilà.
Pas de tapage, mais éco-responsable, c'est le titre du spectacle que vous défendez sur scène, Ben, depuis quelques temps maintenant. Et... que vous allez défendre sur la scène, la grande scène de Bobino, jeudi, vendredi et samedi de cette semaine.
C'est ça.
À Paris. Donc Bobino, c'est quoi? C'est un cadeau que vous vous faites?
Oui, ça, ouais, voilà, j'ai fait 2 ans d'exploitation, presque 200 dates. Et bah là, j'avais envie de faire ça, ce qui n'est pas forcément le meilleur timing entre les deux tours de la présidentielle, avec l'actualité et tout ça. Mais ça permet aux gens de se détendre, de réfléchir et d'aller voter au second tour en étant plus... Plus serein, plus détendu.
Et plus éco-responsable.
Et plus éco-responsable.
Oui, alors éco-responsable, au départ, c'était une ligne pragmatique, un peu opportuniste, on va le dire politiquement, et vous vous rendez compte finalement que c'est contre-productif.
Ouais, non, c'était...
Il n'y avait aucun vert qui se présentait à la présidentielle. C'est...
Non, il n'y en a pas, mais je ne faisais pas ça pour ça, je faisais ça parce que c'était pour faire une réponse à tous les gens qui me disent... qui me jettent tout un tas de qui se moquent un peu de moi parce que je sais pas, j'ai une voiture électrique, parce que j'achète des oignons bio, parce que machin, voilà. Plutôt que de répondre à tout le monde dans la rue, je me suis dit, je vais en faire un spectacle, je vais réunir tout le monde dans une salle, je vais faire la réponse, et puis voilà, ça sera fait, on n'en parlera plus.
Mais c'est étonnant, on a eu il y a quelques jours ici Thibaut Ripton qui a écrit un livre V comme vegan et qui parlait de la pression que pouvait ressentir un végétarien à la table de gens qui ne l'étaient pas. Vous avez l'impression que aujourd'hui, malgré ce qu'on dit, le fait de acheter un oignon bio ou d'être dans une voiture électrique, ça vaut une pression sociale?
Je pense, ouais. À certains endroits, c'est comme peut-être un moment quand on disait que ça se fait plus maintenant, j'espère. Enfin, peut-être pas, mais à un moment, je crois que les gens, quand ils disaient qu'ils étaient de gauche ou ce genre de choses, il y avait des... Ils pouvaient se dire, oh, socialiste, machin. Bon, je crois que c'est un peu pareil avec l'écologie, pas partout. Bon, là, on est à Paris avec des gens un peu ouverts. Mais dans certains milieux, ouais, moi, je croise pas mal de gens qui ont vraiment... quand ils prennent conscience que c'est pas une... Beaucoup de gens viennent voir le spectacle en pensant que c'est une blague, c'est un truc pour se moquer des écolos. Et quand ils prennent conscience que c'est pas ça, ils me disent, mais attends, vraiment, c'est un... Enfin, je veux dire, tu...
Oui, parce qu'il y a un réquisitoire, si je me souviens bien, contre le tilapia, poisson d'élevage qui n'a le goût de rien.
Oui, c'est ça. Ouais, ça fait référence à un reportage que j'avais vu sur un poisson... d'élevage intensif, on va dire. Mais c'est un peu une arnaque, ce sketch, parce que j'ai fait juste que je racontais ce que j'ai vu. Et ça fait énormément rire les gens. Parce que
Si
on aurait voulu l'inventer...
Pardon, Ben, mais ça m'a fait rire beaucoup, beaucoup.
Ben, j'en suis fier.
François ?
Oui ?
Attendez, on est dans la rue. Attends, pardon, madame ?
La rue Chaligny, c'est où ?
Ah, il y a une dame qui est dans la rue Chaligny, mais on est surtout avec Stéphane. Stéphane qui travaille pour la mairie de Paris. Ça s'appelle quoi ? Vous êtes agent d'entretien ?
Oui, exactement, oui, c'est ça.
Alors Stéphane, est-ce que vous avez constaté, comme l'humoriste Ben était co-responsable, est-ce que vous avez l'impression que les gens qui sont écologistes sont plus propres dans la rue?
Non, pas du tout. Au contraire, ça se dégrade beaucoup. Hein.
La rue est plus sale, mais est-ce qu'il y a des gens... Quel type de personnes jettent dans la poubelle ou jettent par terre? Est-ce qu'il y a des prototypes?
Non, c'est toute personne jette un peu partout. Ils jettent leur paquet de cigarettes par terre, voilà. C'est un peu tout type de déchets, hein.
D'accord.
Il n'y a pas de type de personne. Hein,
Il n'y a pas un profil. Vous dites pas celui-là, je le vois à 2 kilomètres, qui va m'en foutre partout.
Non, il n'y a pas de profil. Ouais. Il y a des gens un peu sournois aussi qui jettent.
Qui jettent en loose day. Hein, je ne l'accuse pas, Ben en particulier. Et pareil sur les animaux. Est-ce qu'il y a des chiens où vous dites celui-là, il va se laisser aller au milieu des autres et de celui-là, il va être propre?
Non, au niveau des animaux, c'est pas du tout pareil. Hein.
Vous voulez dire que les comportements des humains et des animaux sont très différents en rue en ce moment?
Puis bon, c'est les humains qui les éduquent en même temps. Hein, donc. Si la personne éduque mal son chien ou son chat, voilà.
Merci monsieur. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Qu'est-ce que vous racontez? Merci monsieur Stéphane. Tout ça, c'est évidemment du blé, tout ça, c'est de l'eau pour le moulin de Ben. Hein. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est nourrir les conversations. Merci Stéphane. Vous allez balayer où, là?
Bah, pour l'instant, je vais en pause.
Voilà, une pause, on va faire des pauses. On vous rend l'antenne en studio, les gars.
La totalité de la recette de votre spectacle, Ben, éco-responsable, est reversée régulièrement dans votre verre, dites-vous, sous forme de vin bio sans sulfite.
Oui, tout à fait.
Voilà. Non, mais ce qu'on dit...
Vous voulez des références ?
Non. ce qu'on comprend aussi, c'est que... Bah, c'est vrai que cet exemple de reportage que vous décrivez sur un poisson d'élevage absolument dégueulasse, il faut le dire, vous le décrivez, et les gens rient, en fait... quand on décrit la réalité et qu'on se demande si c'est pas de l'absurde, c'est bien inquiétant.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si j'avais voulu l'inventer, on m'aurait dit non, mais t'exagères, quand même, c'est trop. Et en fait, quand on la décrit, et bah, ça paraît tellement fou que ça fait rire les gens. Ouais.
Comment évolue l'écriture du spectacle ? Vous écrivez sur scène ? Enfin, c'est en le jouant que ça évolue ?
Il y a une première version qui a été écrite avec Thibaut Seguin, que je salue, qui est au Vietnam. Et puis après, ça bouge beaucoup sur scène. Ouais. 200 dates, le spectacle a pas mal bougé. J'arrive pas à finaliser quelque chose avant de le... Ça change forcément une fois que je l'ai joué.
Et parmi les qualités de Ben, il y a aussi la qualité de son jeu. Il a un jeu très sobre, très, très économe. Il n'est pas du tout dans l'effet, comme on voit beaucoup dans le stand-up aujourd'hui. C'est un jeu très, très fin, très sobre. Il est beau, ce mec-là. Il faut pas se raconter d'histoire. Il est drôle, il est beau, hein.
Et moi, ça me fait penser à une phrase de Beckett, ce spectacle.
Oh là là.
Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne nous reste plus qu'à chanter. Il y a un petit côté comme ça. C'est un peu la catastrophe écolo, mais on peut en rire. On peut en rire de bon cœur, quoi.
Ouais. D'ailleurs, le spectacle se termine par une musique qui fait référence à ça, Dominica, le silence des oiseaux. Paf, allez.
Référence.
Ouais. Mais oui. Et l'idée aussi, c'était de dire aux gens que là, c'est les élections, ils vont voter, c'est bien, et il faut y aller. Mais ça sert pas tellement. Enfin, c'est pas suffisant si on fait pas attention à la manière dont on consomme. Voilà, c'était de parler de ça aussi avec humour, hein, tranquillement, mais. Voilà, de dire que le pouvoir est dans les mains des marchés, donc il faut faire attention à la manière de consommer.
On peut être éco et responsable.
Oui, ah dis donc, j'ai bien compris. Vous avez rusé sur le nom du titre du spectacle de Ben. C'est quoi, madame? On est toujours là à Paris dans le 12e, une dame qui dit « Je vais à un stage de formation sur les motivations sexuelles ». C'est quoi?
Motivation, pas les motivations, tu vois. Vous comprenez que ce que vous voulez, mais c'est pas motivation. On est toutes motivées pour la sexualité. Là, c'est mutilation. C'est un peu moins, voilà.
Ah oui, alors c'est-à-dire...
Une motivation pour la mutilation.
Ah, évidemment, enfin, j'espère. Donc on vous accompagne. Donc c'est quoi? C'est pour parler de l'excision?
Exactement. Pour parler d'excision. On a eu de très bons intervenants. Mais bon, en gros, en France, on est en train de dire... depuis, il y a eu une lutteuse, tu vois, une avocate depuis toujours. Mais on a eu un proc hier qui disait que bon, il y a eu 6 à 8 signalements dans l'année. Uniquement. C'est un peu compliqué de faire prouver, et puis c'est quelque chose de très culturel.
C'est d'arriver à parler à des familles qui s'isolent, à des femmes qui vivent entre elles.
En Afrique, ça fait vraiment partie de la culture.
Alors, il y a beaucoup de pays où c'est quasiment 80-90%, je crois, dans certains pays d'Afrique. Et donc quand des familles africaines...
Genre Mali et tout, tu vois, vraiment, ça va être suivant les ethnies. Ça fait partie de leur culture, donc très compliqué. Le proc dit qu'on a une chance, c'est que les gens vivent en France, et qu'on leur fasse dire, bah, attendez, la prochaine fois que vous faites ça, vous êtes expulsé. Vous avez quelque chose.
Ce sont des pratiques qui se transmettent culturellement, religieusement.
La mère, les mères, souvent.
Est-ce qu'il y a un côté, j'y suis passé, il n'y a pas de raison que tu passes, ou il y a un côté, c'est une chose qui est importante, du respect de soi. Quel est le message qu'on donne? Comment on justifie ça sur les jeunes filles?
Pardon, excuse-moi. C'est hyper complexe, parce qu'on n'a jamais parlé du plaisir, tu vois, dans la formation. Ça, c'est mis à part. Ça a l'air d'être quelque chose qui se transmet pour plein de vieilles raisons, c'est-à-dire pas contaminer le mec, pas accoucher dans la douleur, tu vois. Vraiment, le sexe, le vagin représentait quand même quelque chose de dangereux, encore.
Voilà, mais merci, je vous laisse aller à votre formation, voilà, tout à coup. C'est du on marche dans la rue.
Vous savez, Edouard, les gens pourront faire les deux, c'est-à-dire aller à la fois à cette réunion contre l'excision et aller applaudir Ben à Bobino.
C'est la direction d'action sociale d'enfance de la santé, là, dans le 12e. Voilà, on est tombé sur cette dame qui est avec cette énergie, son sourire et son utilité forte. Voilà, salut, et on peut tout à fait, c'est ça une vie humaine, c'est les deux, c'est ça et ça.
Et voilà.
Salut.
Et Ben, reste avec nous, et l'émission continue, plus près de toi.
7h-9h, plus près de toi.
Tout va.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi. Ah, ah, ah.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Et alors ça, c'était le groupe anglais Fujiya et Miyagi, hein, sur Nova.
Ah bon?
Ouais.
Et donc, ça vous laisse sans voix.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ça s'arrête là.
Ah non, ben alors, Diane, elle connaît. C'est pour ça que alors, il y a Diane qui arrive de Québec, donc elle chante un peu de Gilles Vigneault, forcément, parce qu'on est à l'hôtel Zazie dans le 12e. Là. Et qu'est-ce que vous êtes venue faire ici, Diane?
Ben, on allait de l'hiver.
Alors, il paraît qu'il y a des Québécois aussi, ou des retraités. Je ne prétends pas que vous le soyez, parce qu'à mon avis, vous êtes dans la tranche plutôt 18-25, Diane.
Vous êtes gentil. C'est pour ça aussi que j'ai ici.
Alors, il paraît qu'ils prennent des grands camping-cars et qu'ils vont au sud, qu'ils vont à Miami, qu'ils vont tout ça, qu'ils fuient l'hiver. Vous fuyez l'hiver en venant en France?
Oui. Je suis allée en Provence pour 3 semaines chez une amie. Puis là, je suis venue pour une semaine à Paris parce que Paris, c'est incontournable.
Et cette amie Diane, c'est vous qui êtes partie à un moment, elle vous a dit « Bon, écoute, Diane, c'est bon, 3 semaines, quoi. »
Non, non, j'aurais pu rester, mais quand même, mon mari s'ennuie un peu.
Mais je comprends. Parce qu'il y a cette phrase qui dit « Les invités, c'est comme le poisson, au bout de 3 jours, ça sent mauvais. » Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là?
Non, pas du tout.
Alors, c'est quoi ce Zazie Hotel? Amenez-nous à Zazie. Il y a la directrice qui est là, qui nous a gentiment ouvert la porte. On marchait dans la rue, on a vu plein de belles affiches de cinéma. C'est un hommage à Zazie dans le métro.
Tout à fait, absolument. Zazie Hotel, c'est le premier hôtel éco-solidaire de Paris.
Quoi? Encore de l'éco-solidaire
de Paris.
On peut pas être... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as vu, Jack? Il a vu une dame qui se cachait. Qui se cache là? Ah, il y a une dame qui... Alors, madame, vous avez peut-être fait les chambres. Est-ce qu'ils ont été propres ce matin, madame? Vous faites le petit déjeuner ou les chambres?
C'est tout.
Alors, est-ce qu'ils ont été propres ce matin?
Oui, c'est propre.
Est-ce que vous préférez les gens qui restent plusieurs jours parce qu'on change pas tout? Ou de toute façon, il faut tout changer à chaque fois?
Ça dépend. Ça dépend si c'est ça, là, on change. Même s'il arrive aujourd'hui que le lendemain, si c'est ça, là, c'est bon. C'est nous, on est là pour entretenir l'hôtel. Hein.
Est-ce que parfois vous ouvrez une chambre et vous dites « Oh là là là, dans quel état ils m'ont mis ça ?»
Non, non, non. On ne dit pas ça.
Vous savez, vous voyez que les chambres, on dit que les rockstars, quand ils arrivent, ils foutent tout en l'air, ils découpent, ils brûlent, il y a des bouteilles vides et des dames dans la salle de bain.
Oui, oui, il faut vider, hein. Il faut la vider à chaque fois.
Bon, merci, monsieur, je vois que vous avez... Merci de votre gentillesse. On est là. Je regarde un petit peu le remplissage avec Jack.
Bah oui, donc on a le petit déjeuner pour la 02. Ouais. Monsieur Bodineau.
Monsieur Bodineau, pourquoi il est rayé, monsieur Bodineau? Ah ben venez là, parce que c'est un petit hôtel, il y a 20 chambres.
Il est 9h, hein, il est 9h, Edouard.
Ah pardon, on vous laisse l'antenne, salut, gros bisous. Pardon d'être parti dans la rue, j'avais besoin de prendre l'air.
Bah on ira tous demain, tangente. Demain tout le monde dehors.
Avec
ça marche
plaisir. L'école Buissonnière.
Oui, voilà là. À demain.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.